Il est 7h49, Léa Salamé, votre invitée ce matin est réalisatrice et romancière.
Bonjour à vous Anne Dauphine Julien.
Bonjour Léa Salamé.
Merci d'être avec nous ce matin. Les auditeurs vous ont découvert il y a 10 ans avec le livre « Deux petits pas sur le sable mouillé » vendu à 400 000 exemplaires. Puis il y a eu une journée particulière où vous racontiez la mort d'une maladie génétique rare de vos deux petites filles, Thaïs et Asilis. Vous nous présentez ce matin ce nouveau livre « Consolation » qui raconte comment la vie d'après est possible, comment on peut retrouver la paix et même aussi la joie. En ces temps de crise sanitaire, où la mort et la maladie sont venues percuter la société, a-t-on plus que jamais besoin d'être consolé ?
Ah oui, on a besoin d'être consolé, consolé comme jamais, consolé tous presque de ce que nous vivons qui est assez inédit. La mort vient percuter la société, elle vient toujours percuter la société, la mort, elle en fait intimement partie. Et pourtant, comme elle est assez mise à l'écart, aujourd'hui elle a été sur le premier plan et à la fois vécu dans des circonstances tellement particulières, tellement isolées que les gens n'ont pas pu être consolés. Ils se sont rendus compte de cette importance d'être approché par d'autres, d'être pris dans les bras, d'être tout ce qui nous est interdit aujourd'hui, qui va redevenir notre essentiel demain.
Oui, vous dites d'ailleurs qu'avec le Covid, la mort a fait irruption dans la société, qu'on l'avait oublié, qu'il y a un déni de la mort, un déni du deuil aussi. Le deuil, on le met au banc de la société, dans notre Occident aujourd'hui, et que c'est ça que ça nous a rappelé l'épidémie.
Oui, c'est fou de mettre la mort de côté alors que, sans vouloir être morbide à cette heure matinale, c'est une chose qui va tous nous arriver. Ça fait partie intimement de la vie, cette mort. Et pourtant, on n'en veut pas, on la considère comme un échec. Et on n'en veut pas non plus dans la société, il ne doit pas y avoir de signe ostensible de ce deuil. Mais quand on vit ce deuil, quand on est impacté par la mort, on a besoin des autres. On a besoin des autres pour prendre soin de nous. On arrive en noir, non pas pour tel lépreux qui arrive avec sa clochette pour faire fuir les autres, mais au contraire, pour que les autres s'approchent, puissent nous prendre dans les bras et nous, voilà, prendre soin de nous comme on a besoin quand on est fragilisé dans un moment pareil.
Vous commencez Consolation en racontant que vous avez perdu vos deux filles à 10 ans d'écart. Vous dites, à ces mots, beaucoup s'éloignent, ont peur. Vous écrivez, je vous cite, la souffrance. Le mot seul fait frémir. À l'entendre prononcer, on amorce un mouvement de recul. Inconsciemment, un simple pas en arrière, silencieux pour s'éloigner d'elle. Pourquoi la souffrance de l'autre effraie-t-elle autant ?
Pas parce que c'est normal, je crois. Et c'est très bien que la souffrance effraie, finalement. Ça serait terrible si la souffrance nous laissait indifférents. La souffrance, elle nous effraie parce qu'elle révèle la fragilité de l'autre. On le voit avec ses larmes, avec toute sa faiblesse et toute sa peine. Et ça nous met mal à l'aise, ça nous fend un peu le cœur aussi. On se croit plus paré pour le bonheur et mieux à même d'accompagner le bonheur. Et pourtant, je pense qu'on est fait pour accompagner la peine. On a oublié à quel point la consolation, c'était simple. On croit toujours qu'il faut inventer des formules magiques et trouver des mots exceptionnels. Et on se sent mal à l'aise et on se dit « ça viendra jamais, je vais commettre des boulettes ». Et pourtant, c'est d'une simplicité exceptionnelle.
Non, c'est difficile aussi. C'est difficile de savoir ce qu'on peut faire. Vous l'écrivez, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit dire face à quelqu'un qui souffre. On ne sait pas si on doit s'approcher, comment s'approcher, jusqu'où s'approcher.
Oui, on se pose beaucoup de questions quand on s'approche de quelqu'un qui souffre et pourtant, je crois qu'instinctivement, on a les réponses souvent. Se placer à la juste proximité de celui qui souffre, dire les mots, pas qu'il attend, mais les mots qui nous viennent, c'est vraiment la consolation. Je crois que c'est un cœur à cœur. C'est quelque chose qui crée la relation entre une personne à un moment donné et une autre. C'est pas une formule qu'on va appliquer systématiquement. Je peux pas vous dire si vous pleurez aujourd'hui, je peux pas vous dire comment je vais vous consoler. Je verrai comment vous êtes et comment je suis à cet instant-là pour vous consoler. C'est vraiment deux personnes qui se rencontrent dans un moment donné.
Vous racontez combien, alors que vous êtes dans la chambre d'hôpital de votre fille Asilis, qui vit ses dernières heures, une infirmière rentre dans la chambre, elle ne parle pas, elle s'assoit sur le lit, elle vous regarde et elle vous dit juste « je suis là ». Et juste ces trois mots vous ont fait un bien immense.
Oui, parce que c'est ça la consolation. La consolation, c'est se mettre en présence de l'autre, c'est se mettre à sa disposition aussi. C'est pas porter sa peine, c'est l'accompagner. Cette infirmière, elle me connaît pas, elle voit mon grand désarroi, j'ai déjà perdu une fille. Asilis va très mal, je suis toute seule. Dans la nuit, elle s'assied à côté de moi, pas collée à moi, elle me touche pas. Et elle me dit ces mots, je suis là, ces mots qui m'ont permis de laisser aller ma peine, qui m'ont fait confiance. J'ai pleuré à cet instant-là parce que j'avais confiance dans sa capacité à accueillir ma peine et à la consoler.
Consoler, ce n'est pas nécessairement sécher les larmes, c'est souvent les laisser couler.
Oui, ce livre, c'est pratiquement une ode aux larmes.
Oui.
C'est un plaidoyer pour pleurer, pour dire, mais n'ayez pas peur de pleurer. C'est vrai, c'est devenu presque un interdit, les larmes. Alors pas quand on est petit. Quand on est petit, on a le droit de pleurer, mais plus on grandit, moins on a le droit. On s'impose cet interdit. Alors que c'est, il n'y a rien de plus spontané que de pleurer. C'est déverser d'abord une partie de sa peine. Et puis, c'est aussi dire aux autres, c'est aussi montrer aux autres et leur dire, je sais que vous allez pouvoir accompagner ma peine si je pleure.
Il y a aussi les gestes. L'an dernier, vous étiez chez vos parents le jour de l'anniversaire d'Asilis. Vous écrivez, une de mes sœurs s'est jetée dans mes bras pour m'embrasser. L'autre était davantage dans la retenue. Ma mère, qui était dans la pièce d'à côté, m'a envoyé un SMS car elle était très éprouvée, avait peur d'être maladroite. Mon père m'a juste fait une caresse sur la joue. Cela m'a fait du bien, car j'ai reconnu chacun d'entre eux dans leur geste de consolation.
Ben c'est ça, c'est chacun qui arrive avec ce qu'il est, avec aussi ses peurs de mal faire, ses peurs de blesser, son grand cœur, sa volonté d'être là, sa volonté de dire l'amour en fait qui existe, et l'amour avec un grand A ou avec un petit, l'amitié. Et je crois que c'est le plus important dans cette consolation, c'est d'arriver comme on est, avec cette volonté, Pas d'éloigner la souffrance, pas de la faire disparaître,
parce
mais
qu'elle
de l'apaiser.
Vous dites elle ne s'efface jamais, la souffrance. Elle ne disparaît jamais. Aujourd'hui, vous avez vos deux petits garçons qui vont très bien. Et malgré la perte de vos filles, vous arrivez à connaître la consolation, la paix et même parfois la joie.
Ah oui, oui, souvent la joie, hein, très souvent la joie. Heureusement d'ailleurs, sinon je ne serais plus là, ce serait désespérant. C'est ça qui est étonnant quand on vit un drame comme celui que je vis, c'est qu'on a l'impression que le bonheur fuit, qui fout le camp. Et en fait, il reste là. Et tout l'enjeu, c'est de dire au malheur, de dire à sa peine, ok, tu vas habiter mon cœur, mais tu vas cohabiter avec d'autres sentiments. C'est compliqué de faire ça tout seul, et c'est dans ce moment-là qu'on a besoin des autres pour se rassurer, leur dire que notre peine, nous dire que notre peine n'est pas effrayante, et que le bonheur a aussi sa place. Ils cohabitent pas vraiment, il n'y a pas des moments où je suis triste et heureuse à la fois, mais dans une même journée, je vis ces émotions et je les vis avec beaucoup de simplicité. Quand je suis triste, je pleure. Et quand je suis joyeuse, j'accepte aussi d'être joyeuse.
Vous dites la compassion, qui veut dire souffrir avec, c'est l'un des plus beaux mots de notre langue française. Avez-vous le sentiment qu'avec cette épreuve collective que nous vivons depuis le début de cette année 2020, on réapprend la compassion, la solidarité, au contraire qu'on se replie sur nous-mêmes, qu'on se recroqueville sur notre petit nombril, nos petits bobos à nous?
Je pense malheureusement qu'il y a les deux mouvements cohabitent, une fois encore. Il y a une forme de compassion, on a pris conscience de ce que vivaient les gens à côté de nous, on s'est intéressé à nos voisins, etc. On a un deuil de compassion qui est quand même assez limité et qui est souvent contredit par la peur. La peur en ce moment est en train de s'installer, la peur économique, sociale, etc. Et c'est le pire ennemi pour la compassion, cette peur. Donc je crois que c'est vraiment essayer de gagner en sérénité et de se dire, quoi qu'il arrive, le plus important dans la vie, c'est l'autre et ce qu'il vit.
Ouais. D'un mot, vous parlez de la foi, mais de manière très discrète dans le livre, très délicate. Croire au ciel, ça aide à vivre avec?
Croire au ciel, c'est une étoile dans la nuit. C'est pas un soleil radieux qui éclaire toute l'existence. C'est au milieu des ténèbres se dire qu'il peut y avoir la lumière.
Voilà, la consolation, ou plutôt non, consolation tout court. La consolation, c'était un très beau livre de Flavie Flamand également. Vous, c'est consolation et c'est une très belle leçon de courage. Merci à vous, Anne-Dauphine Julien, c'est aux Arènes. Merci.
Merci Léa.
Et belle journée à vous.
Ben oui.
Cette belle journée, ça vous m'avez scotché.
Voilà, merci Léa et à tout à l'heure, 8h20.